Bienvenue dans l'heure du documentaire où nous diffusons aujourd'hui le portrait d'un danseur qui considère que son histoire est en feu. Il a dansé pour rester debout, alors que dans sa mémoire, la dictature de Mobutu ne saurait éclipser le moment où à Kisangani, en 1985, avec trois copains d'enfance, ils jouaient pieds nus au football avec de faux maillots dessinés à la craie sur leur torse nu. Richard Kabako, Antoine Vumilia et Faustin Lignekoula rêvaient de théâtre. La suite de l'histoire, c'est la Faustin Lignekoula Company, avec la volonté de créer un espace de réconciliation par la danse et le corps. L'homme qui a vu l'armée lancer de l'eau chaude sur les manifestants, senti une arme sur sa tempe, a fondé les studios Kabako à Kisangani. Pensé comme un véritable lieu de vie, il se compose aujourd'hui d'une structure de diffusion et de représentation multidisciplinaire. On y crée, on y enseigne, au nom d'une utopie profonde, danser et se construire un avenir commun sur un tas de ruines.
La République du Congo a été proclamée et notre chef est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte.
Grandir son Mobutu, c'est en fait intégrer le fait qu'il y a son père et qu'il y a le père de tous les pères. Le père de tous les pères, c'est Mobutu, le sorcier de tous les sorciers, parce qu'il était très malin. À partir du moment où il avait vraiment compris que la première entité d'identification pour un Zaïrois, ce n'est pas tant la nation que le chef coutumier. Parce que le chef coutumier représente le pouvoir ancestral qui est par essence mystique, spirituel. Lui, il a réuni tous les chefs coutumiers du pays et il s'est fait introniser par tous les chefs coutumiers leur chef. Et donc, ça veut dire qu'il avait plus de pouvoir que tout le monde. Donc grandir sous Mobutu, c'est vivre avec cette image-là, de savoir que je ne peux même pas oser dire Mobutu ici, parce que avec tous ces pouvoirs-là, il le saura. C'était un petit dieu. C'est tellement grand qu'on ne pouvait pas impunément le nommer.
Sur les docks, danser sur un tas de ruines, portrait de Faustin Lignekoula.
Les pionniers du Zaïre, nous chantons à règlement. Nous sommes fiers d'être des Zaïrois, nous sommes fiers d'être des militants engagés dans la révolution, en nous rangeant derrière notre guide de la révolution zaïroise. Notre timonier, notre sauveur, qui par son courage a su donner aux Zaïres, sobre visage. Marchons, marchons, la tête haute, toujours prêt pour la révolution. Ça, c'est notre devise, c'est la devise des pionniers. Pionniers, prêts pour la révolution.
Dès le premier jour où je suis allé à l'école, chaque matin, il y avait ce qu'on appelait les 30 minutes révolutionnaires. Où on chantait et où on criait Mobutu Lelo, Mobutu Lobi, Mobutu Libela, ça veut dire Mobutu aujourd'hui, Mobutu demain et Mobutu toujours. Mobutu et Mobutu ah, ah, chaque jour. Comment oublier ça? Parce que ça va au-delà du cerveau, ça s'inscrit dans la chair. Mais tous ceux qui ont grandi en ces années-là se rappellent ça, mais comme si c'était hier. Et grandir sous Mobutu, c'est aussi ça. C'est une fierté. C'est peut-être irrationnel, parce que je ne pouvais pas analyser d'où ça venait, mais juste la fierté de dire on a un grand pays, on a un grand peuple, on a un grand chef. Et c'est seulement à partir de 90 que, pour la première fois, j'ai pu entrevoir la possibilité d'un autre discours. Et ça s'est arrivé notamment quand on a vu sur la télé zaïroise des images de la chute du mur de Berlin. On s'est dit, ah oui, bon, je ne parlais même pas en termes de liberté, c'est juste que, eh ben, il existe autre chose.
Indépendance, cha-cha, dans ce juillet. Aucun point ça, cha-cha, tout bas qui dit. En table ronde, cha-cha, pas gagné.
Faustin Lignekoula est né en 1974 dans ce qui était encore le Zaïre de Mobutu. Il est devenu danseur au moment où la voix et les mots n'ont plus suffi à raconter l'histoire de son pays et les histoires entendues lors de son enfance en République démocratique du Congo. Parti au Kenya en 1993 pour réaliser le rêve de ses deux copains d'enfance, celui de devenir artiste, il les perdra sur la route entre la frontière ougandaise et le Kenya. Faustin deviendra danseur sur les routes de l'exil, explorant tout d'abord les rites traditionnels ancestraux et les lectures de Merce Cunningham. Trouvant dans la danse le moyen de s'émanciper des ballets nationaux africains récupérés par les utopies identitaires de l'après-indépendance. Et cherchant avant tout à poser la question d'un corps, outil de mémoire et de questionnement. Danse, mime, chant, théâtre, le corps est avant tout un espace hybride et sans frontières. Reconnu aujourd'hui par de grands professionnels européens comme Régine Chopineau, Raymond Hogg ou Boris Charmatz, Faustin choisit de rentrer malgré tout au pays en 2001, après le second conflit congolais. Il créera à Kisangani les studios Kabako, un espace où la danse, la musique, permettent de rêver là où tout a été cassé, et qu'il ne reste que les ruines d'une histoire avec qui il faut se débrouiller chaque jour. Rencontre avec Faustin Lignekoula et ses compagnons de route en mai 2010, à l'occasion des répétitions de Bérénice au Centre dramatique national chorégraphique d'Angers.
Je me rappelle, jusqu'à mes 9 ans, mon père était instituteur dans une école de brousse entre Kisangani et Ubundu, à 82 km de Kisangani, qui s'appelle Obilo. Il était instituteur là, dans une école de brousse. Et son grand frère, dont mon oncle, il travaillait aussi dans une société forestière là-bas. Il était chauffeur de gros camions de grumiers pour évacuer le bois. Et il avait acheté un tourne-disque, comme on l'appelait. Il y avait des disques 33 tours, des groupes zaïrois mythiques comme OK Jazz de Franco ou de Zaïko. Et les dimanches, il achetait des piles parce qu'il n'y avait pas d'électricité et il jouait très fort tout ça et on dansait. Mais c'est, à part ces souvenirs-là de danse, ce que j'ai gardé de cette période de la danse, c'est surtout les danses auxquelles je n'avais pas accès parce que j'étais tout petit. Et c'était des danses qui se passaient la nuit, toujours. On ne pouvait pas dormir parce qu'on entendait tous les tambours. C'était des danses traditionnelles, souvent liées à des rituels. Et seuls les initiés pouvaient être là. Et moi, j'étais trop petit pour être là et j'étais toujours exclu. Et bien sûr, on entend tout ça, on ne peut pas dormir. On peut imaginer, et aujourd'hui encore, même plus grand, je rêve de pouvoir retourner à Obilo et pouvoir enfin accéder à ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils me laisseraient être là, mais je ne sais pas si elles existent encore, ces danses-là. C'est tout récemment que, en repensant à tout ça, et en me posant la question de la danse, à quel moment la danse a commencé à rentrer dans mon espace.
Ça, c'est pas dans le spectacle.
Je suis arrivé au théâtre, en fait, par l'écriture. Comme tout ado qui commence à écrire, j'écrivais des poésies. Et dès les premières choses que j'ai pu écrire, c'était la conscience de la négritude, par exemple, et comment me situer par rapport à cette histoire. Et je ne sais pas si c'est lié à l'un de mes professeurs du français, qui, lui, était membre de la section locale de l'Union des écrivains zaïrois et donc qui écrivait et qui ne jurait que par la négritude. Pour lui, la négritude, ce devait être l'aboutissement de toute démarche littéraire pour un noir. C'était la négritude. Et bon, peut-être par réaction à ça, on se dit bon, voilà, il nous prend un peu trop la tête avec son histoire de négritude. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est ainsi que la première fois que j'ai lu cette phrase de Wole Soyinka où il dit « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la mange. » le nombre de fois où je l'ai sorti à mon professeur, à chaque fois qu'il voulait nous parler encore une fois de négritude. Et donc, commencer à écrire dans ces conditions-là, pour moi, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, parce qu'au bout d'un moment, ça m'impose des questions tout le temps, aujourd'hui encore. Et c'est là, en lisant mes poèmes, notamment en public, à l'école ou sur mes antennes à la radio locale, que les gens m'ont parlé de l'atelier théâtral du Centre culturel français. Et j'arrive là-bas, avec, je rencontre Richard Cabacourt, qui était un grand, pour nous c'était un grand, parce qu'il il est décédé, il avait 9 ans de plus que moi, et c'était l'un des acteurs les plus talentueux de la ville de Kisangani. Tout le monde, c'était genre Kabako. Kabako, c'est le nom d'un personnage dans la pièce Moi seul de Bernard Dadier, de l'Ivoirien Bernard Dadier. Et il avait tellement bien joué ce personnage que tout le monde après l'appelait Kabako. Lui, il m'a appris à être sur scène. Vraiment. Et à l'école, quand j'ai commencé à écrire, c'est là que j'ai rencontré Antoine Vomiliab. Et donc, nous sommes arrivés tous les deux à l'atelier théâtral du CCF, du Centre culturel français de Kisangani, ensemble. Et nous avons rencontré Kabako, qui a été l'une de ces personnes qui, en tout cas, qui, moi, m'a appris à être sur scène. Et c'est Kabako, c'est en discutant avec Kabako qu'on a eu envie de partir de Kisangani en 93. Et là, on n'a pas assez d'argent pour partir tous. Et j'arrive au Kenya, donc ma mère me donne $300 et je paye le voyage jusqu'à Nairobi. Je me débrouille entre des petits hôtels. Je vois qu'il y a des possibilités. Je vois que la scène, c'est surtout des mots. Il n'y a pas de corps. On s'est dit, il y a une possibilité pour nous ici. J'écris à mes amis pour qu'ils viennent me rejoindre. Vous m'y arriverez le premier. Et après, on attend qu'arrive Kabako. Et là, on apprend que Kabako est mort. Et il a attrapé la peste et il est mort de la peste.
Pourquoi ce Kabako, Richard Kabako, vous suit encore aujourd'hui ?
Moi, ouais, c'est plus qu'une compagnie. Donc, ça s'appelle Studio Kabako, en hommage à ce ami, ce grand frère. Et me souvenir de Kabako, c'est peut-être aussi juste essayer de me rappeler qu'est-ce qui est essentiel. Pourquoi ? Je suis parti, comment je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Et bien, c'est important que leur rêve aussi continue. Donc, si je convoque Vomi sous une forme ou une autre, c'est aussi ça, juste comment continuer à rêver avec des copains finalement.
Blesser sa douleur.
En 1995, le Centre culturel français de Nairobi organise un atelier, ils ont appelé ça, pour une danse africaine contemporaine, animé par un pédagogue ivoirien qui vit en France aujourd'hui, dont Alphonse Thierrou. Et il y avait Opio Katch, qui à l'époque, bon, aujourd'hui il est plutôt connu comme chorégraphe et danseur, mais à l'époque il était connu comme mime. C'était le seul mime avec une formation. Il avait été à l'école, à la Desmond Jones, qui est une école de théâtre physique, de mime, à Londres. Il est revenu et c'était juste quelques mois après son retour. Il y a cet atelier où je dois dire que je m'ennuyais un peu. Je me disais, bon, si c'est ça, la danse contemporaine, c'est un peu trop facile. Et après cet atelier, on a eu envie de continuer. On restait tous les deux à essayer des choses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer un premier spectacle, un duo de 8 minutes en 97, donc 2 ans plus tard. Et ça nous ouvre les yeux, on se dit, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'est née la première compagnie de danse contemporaine du Kenya, mais de l'Afrique de l'Est, la compagnie Gara. Gara, c'est les grelots, mais ça veut dire aussi le ton. Voilà, c'est ça le nom pour notre compagnie. C'est comme ça que c'est parti, en 97. Pour devenir danseur, il faut être initié. me disais, mais comment prétendre être danseur, juste comme ça? Et la première fois que j'ai lu la petite phrase de Merce Cunningham, quand il dit « Dance is motion in time and space », la danse, le mouvement dans le temps et dans l'espace, voilà, je ne sais plus combien d'heures, combien de jours, des semaines, avec Opio, nous avons passé à essayer de comprendre ça avec notre corps. Est-ce que c'est la danse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a essayé de comprendre ça avec notre corps, tous les deux. Et par moments, on s'est fait mal. Et là, on a compris qu'il ne fallait peut-être pas aller là. Mais en se faisant mal, on comprend des choses. La technique, en fait, c'est juste la réponse à une question. Si on se pose la question, comment dealer avec la gravité? Et que dans la danse classique occidentale, ils ont trouvé comme réponse l'élévation, essayer de sortir pour défier la gravité, et que dans les danses traditionnelles en Afrique, on se dit, on va s'enfoncer dans le sol. C'est comme ça qu'on va dealer avec la gravité. Pour moi, quand j'ai ces deux-là comme réponse, je me dis que pour développer cette technique, que ce soit dans les danses, dans la danse classique occidentale ou dans la danse classique africaine, traditionnelle, comme on veut, il a fallu que quelqu'un se pose la question de la gravité à un moment. Comment gérer le poids? On s'élève ou on s'enfonce? Alors, si j'avais juste appris ces pas, je n'aurais pas compris ça. Mais à partir du moment où j'ai abordé la danse avec beaucoup de questions, ça m'a permis d'avancer comme ça. Et du coup, d'aborder même les techniques que j'ai pu rencontrer avec une certaine distance, en me disant que de toute façon, ce n'est qu'une réponse, mais ce n'est jamais la réponse. Mais peut-être aussi, c'est parce que j'ai grandi dans une dictature. La dictature, par essence, c'est cet espace où on te donne toujours les réponses, mais jamais les questions.
C'est comme un caillou, quoi. Que je suis là, je te parle là, mais ce caillou, j'aimerais qu'il tombe, tu vois, loin, qu'il résonne loin. Même mes réflexions personnelles, j'aimerais que ça résonne loin.
Si Faustin est à mes yeux en tous les cas un artiste digne de ce nom, c'est par sa capacité à problématiser la somme des clichés qui nous viennent immédiatement à l'esprit dès lors qu'on évoque la danse, l'Europe, l'Afrique, l'histoire, ce que c'est qu'être un sujet, ce que c'est qu'une culture, etc. Et au fond, il est quelqu'un d'extraordinairement complexe, et qui a compris aussi que ce dont il est le fruit, le moment historique dont il est le fruit, est lui-même un moment tellement complexe que soit on décide d'en faire commerce, d'en faire boutique, ou bien alors on fait ce que Faustin fait, et avec lui à peu près tous les artistes pour lesquels moi j'ai de l'admiration, encore une fois, que ce soit en danse ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on se tient à hauteur de la complexité dont on est soi-même le fruit historique. Voilà. Donc effectivement, quand il met les pieds dans le plat, ça consiste par exemple, au moment, c'est une performance qu'il avait présentée au Centre National de la Danse il y a quelques années de ça, se présenter dans une certaine situation corporelle, tête renversée, tête bêche au fond, hein, son crâne en appui sur le sol, les pieds en l'air, et dans une situation de semi-nudité, il nous adresse un cri maîtrisé, qui est en réalité un énoncé. Je suis un danseur africain, j'ai beaucoup d'histoires exotiques à vendre, laquelle voulez-vous ce soir? Bon, là évidemment c'est l'une des opérations par lesquelles Faustin a toujours mis les pieds dans le plat de cette stéréotypie accablante et de ce qu'elle a d'intolérable quand on en est soi-même l'objet, ce qui est son cas. Néanmoins, encore une fois, je pense que réduire Faustin à cette seule colère serait passer à côté de ce qui fait tout le prix, littéralement sans prix d'ailleurs, de son travail artistique, c'est-à-dire toute l'intensité et toute la pertinence de son travail artistique, qui consiste à problématiser constamment, ou en tous les cas à s'efforcer de le faire, la complexité de ce présent dont il est à la fois le produit, mais duquel il a à répondre en tant que sujet. Comment fait-on lorsque on est un homme noir, congolais, artiste, contemporain, acteur, performeur, metteur en scène, danseur, chanteur, et que l'on décide d'intervenir en son nom sur une scène face à un public. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille de la violence constitutive du présent qui est le nôtre quand on occupe une position minoritaire ?
Personne à nous accueillir pour travailler en France, en tout cas c'était Régine Chopineau. Elle était en tournée au Kenya et on a rencontré Régine, on lui a montré sur vidéo notre travail et elle nous a dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et tout de suite j'ai dit « voilà, moi je ne connais pas la danse, je veux juste savoir qu'est-ce que c'est que le monde du danseur ». Elle nous a accueillis pendant 3 mois à La Rochelle quand elle dirigeait encore le centre chorégraphique. Mais donc Elle disait, mais ce que vous faites, c'est vraiment de la danse. Elle nous a aidé à croire en ce qu'on avait. Et donc, j'ai compris que ma danse ne pouvait pas être en dehors, mais qu'elle ne pouvait se construire qu'avec ce que j'étais. Parce que ma danse ne pouvait exister qu'à partir de tout ce que j'avais traversé entre des expériences de corps, avec Ozaïr de Mobutu, ou un corps qui est plutôt dans un carcan, qui ne peut pas voir autre chose, mais en même temps, un espace qui est très fluide, entre mon arrière-grand-père, mon père, la seconde famille de ma mère, et que si je devais trouver ma danse, c'était là-dedans. Il fallait juste que j'apprenne à construire avec tout ça. Et qu'il s'agissait non pas tant de produire ou de reproduire des figures que de mettre en mouvement des états de corps. Tout n'était plus que question de travailler le corps, de le torturer, parce que voilà, je l'ai quand même un peu poussé. Juste qu'il ait les moyens de laisser émerger ce qui était déjà là.
Que danser, c'est quelque part chercher à se souvenir de votre nom.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'évolution d'un peuple en 200 ans ? Rien. Alors je me suis dit, peut-être que le corps se souvient. C'est aussi que je suis jeune, mais je suis aussi ancien. Parce que dans mes gènes, il y a des choses qui me relient à des générations d'il y a 1000 ans. Je me suis dit, peut-être que le livre le livre le plus ancien auquel je pourrais avoir accès, c'est le corps. Et du coup, parler de la danse comme d'une tentative de me souvenir de mon nom, c'est peut-être juste une manière de remonter comme ça, parce que le nom, c'est à la fois la plus petite marque d'identification, mais c'est une marque qui ne nous permet pas du tout de nous écrouler en nous-mêmes. Parce que le nom n'est pas comme une quête nombriliste. Tout de suite, on est dans une configuration plus large. Je ne suis pas Linyekula par hasard. Linyekula, c'est parce que mon grand-père s'appelait Linyekula et que mon père s'est appelé après lui Linyekula. Et du coup, juste en m'appuyant sur cette entité, je peux aller au-delà de moi-même vers une histoire collective. Et le corps, c'était, je dirais, le vaisseau qui me permettait d'avancer. Voilà, comment dire, je pense à ces poèmes d'Adonis qui s'appellent Histoire. La terre n'était pas un corps, mais une blessure. Comment serait possible le voyage entre le corps et la blessure? Et comment s'y établir? Il dit, comment marcher vers moi-même, vers mon peuple, avec mon sang en feu et mon histoire en ruine. J'ai pris conscience de ça, en 97 en tout cas. J'ai pris conscience du gâchis dans lequel j'ai grandi. Et il s'est posé cette question, comment ? Comment s'y établir ? Comment ? La terre, c'est un corps, mais ce n'est pas un corps, c'est une blessure. Et comment avancer vers cette blessure ? Comment s'y établir ? Quand on sait qu'il y a autant de ruines. Je danse pas pour parler de mon pays, je danse pour parler de moi au milieu de tout ça. C'est peut-être juste une manière de dire, et moi dans tout ça ? Où suis-je ? Comment exister là-dedans ? Comment rester debout, si c'est possible de rester debout, quand, comme ça, tout se barre ? Et comment avancer ? Non, je danse pas pour le Congo. Parler du Congo, ça devient, je dirais, comme un dommage collatéral. Mais j'aurais aimé ne pas avoir ça sur le dos. Ou... C'est épuisant. Et ça, c'est terrible.
Cette lutte qui fuit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Qu'est-ce que c'est qu'un Africain vu d'Europe ? C'est en général une figure qui se réduit à la somme de quelques maigres clichés. Il est certain que ce qui m'est resté très puissamment présent à l'esprit, c'est l'espèce de champ de tension que ça suppose. Et ce champ de tension, encore une fois, il ne repose pas seulement sur le fait qu'il est un artiste et un danseur, un chorégraphe, un metteur en scène, un acteur, un performeur africain, mais qu'il est d'abord, il est quelqu'un qui, venu d'Afrique subsaharienne, est présent et présente son travail sur des scènes européennes. Donc au fond, Faustin, comme tous les artistes africains contemporains, a maille à partir avec cet état de fait. Quelle que soit la violence, quelle que soit la souffrance qui en résulte pour tout artiste qui provient de cette région du monde, il faut composer avec cette donne-là. Lorsqu'on voit Faustin danser, on voit un homme extraordinairement fin physiquement, avec ce corps à la fois extraordinairement délié, extraordinairement puissant. Mais effectivement, c'est d'abord peut-être cette finesse qui frappe et le rapport là aussi de tension qui devient immédiatement perceptible, palpable entre cette finesse et cette puissance. Bon, le travail de Faustin Lignekoula participe à mes yeux exemplairement par sa poétique, mais également par sa politique, à s'inscrire dans une histoire des luttes, une histoire des émancipations qui permettent aux minoritaires de ne pas le céder aux majoritaires.
Comédien. J'ai été invité dans ce spectacle par Faustin Lignekoula pour continuer une discussion. Faustin m'a parlé d'une bande de jeunes qui s'en gagnait, une bande d'amis qui rêvaient de changer le monde.
Papy Maurice Mbouiti, comédien, fondateur de la compagnie Les Béjars à Kinshasa, et compagnon de route de Faustin Lignekoula.
D'abord, je me disais qu'il y avait quelque chose que de lui qui écrivait, parce que je ne me suis pas directement identifié à ce qu'il faisait. Parce que la danse que moi je connaissais, c'est la danse de la hanche, la danse de la tête, mais il y a toujours une danse cérémoniale, festive, rituelle. Il y a toujours quelque chose, il y a un cri qui accompagne ça, il y a une parole qui l'accompagne, il y a un chant qui l'accompagne. Cette danse de ma tradition, de ce que moi je savais, de la danse. Donc c'est d'abord ça. Mais au fur et à mesure de voir comment les spectacles évoluaient et parfois comment le corps se rencontrait, et c'est là que je commençais à sentir des choses, à lire des choses, Certains mouvements pour moi pouvaient évoquer la guerre, certains mouvements pour moi pouvaient évoquer la lutte, certains mouvements pour moi pouvaient évoquer la détresse ou la rage, certains mouvements pouvaient évoquer de l'espérance, une recherche, certains mouvements pouvaient évoquer un retour, une mémoire. Voilà. Le corps est devenu pour moi, en travaillant avec Faustin, je veux dire, toute une bibliothèque qui emmagasine avec soi une histoire qui date de très longtemps, c'est-à-dire de mes ancêtres, de mes aïeux. C'est pas pour rien que j'ai un nez comme celui-ci, j'ai des yeux comme celui-ci, c'est-à-dire que je l'ai certainement hérité de mes pères, de mes ancêtres, de mon père, de ma mère. Et il y a une histoire dans mes gènes, et lorsque j'apporte, je suis seul, mais je suis avec tous mes aïeux sur scène. Je suis avec toute mon histoire, avec toutes les tragédies que j'ai vécues, tous les plaisirs que j'ai vécus, même tous mes moments le plus tendres, je le porte avec mon corps. C'est là que j'ai découvert le corps aussi comme étant le lieu de souvenirs, mais le lieu de l'histoire aussi.
L'histoire congolaise,
de mon histoire propre d'abord et de l'histoire congolaise. Parce que l'événement, par exemple, du 12 février 92, lors de la marche des chrétiens, j'étais sur place, j'ai marché, j'ai vu lorsque l'armée pulvérisait de l'eau chaude et qu'il envoyait des gaz lacrymogènes, j'ai eu mal aux yeux. J'avais une larme flanquée sur ma tête. Donc mon corps se souvient de ça. Quand je rencontre des choses qui me rappellent, qui me donnent en écho ce que j'ai vécu, j'ai une autre prestation quand je suis sur scène.
Et ça, c'est grâce à la danse.
Il parle toujours des ruines, les ruines du pays, les ruines de l'histoire, les ruines de la mémoire. Cette histoire qui a tout le temps été effacée, tout le temps été réécrite le Congo a cette manie, surtout les autorités, ceux qui viennent à la tête de l'État, de penser que l'histoire ne commence qu'avec eux. Quand ils arrivent, ils détruisent tout ce qu'il y avait, ils débaptisent les noms des anciennes avenues, ils déboulonnent les stèles, ils changent de nom. Je trouve que Faustin a amené une autre démarche, celle de vouloir révisiter toute cette histoire, finalement, cette histoire entrecoupée pour en faire une grande histoire.
Celle des hommes faibles.
Celle des hommes faibles. Donc c'est un accompagnement d'une autopsie historique, si je peux dire, de Faustin. Nous l'accompagnons, mais dans cet accompagnement, nous-mêmes, nous sommes, il y a notre propre histoire, parce que c'est, outre l'histoire de Faustin qui est la petite histoire, il y a la grande histoire qui est l'histoire du pays, qui est racontée dedans aussi.
Et la vôtre.
Et la mienne aussi. Au-delà de tout, je partage aussi ces mêmes angoisses, ces mêmes inquiétudes en tant que Congolais, ce même rêve de voir demain être plus beau qu'avant, ce rêve de sentir qu'on existe ou qu'on a une histoire propre et qui ne sera pas tout le temps effacée, raturée.
J'en ai marre de toi, Serge, avec ton latin et ton église qui parle une langue loin des autres. J'en ai marre de toi, Jojo. J'en ai marre de toi, Faustin. Je suis un comédien. Tu m'as invité dans ce spectacle et non pour ressasser ta mémoire, pour jouer. Et j'en ai marre de toi, Fouri. J'en ai marre de toi, Tabaco. Qu'est-ce que tu es allé faire à Bonnieri?
Il faut vraiment assurer son travail par beaucoup de compétences pour qu'on ne bénéficie pas d'un régime de faveur, sur le plan exotique ou de couleur ou de race, mais de cette collaboration aujourd'hui avec Fossey Nicolas, aujourd'hui je suis assez conscient que prendre la parole sur scène, c'est un acte d'engagement politique, je le sais, et que c'est toujours un risque que de prendre la parole sur scène. Je peux dire aujourd'hui, moi, que je sais pourquoi je joue pour mon peuple.
But before I go, I'd like to just remember one last thing. It's a page from Kabako's writings. One of those pages from those unpublished books that nearly changed the fate of African literature. It's a play, two characters, a scene.
Pour moi, c'était très clair qu'en retournant au Congo, où personne ne faisait ce genre de travail, et où je ne pouvais pas juste créer une compagnie, développer mon travail, c'est tout. Il fallait que ce soit un espace où on offrait des possibilités de se former, des possibilités de rencontres. Alors, la première fois qu'on présente un projet à Kinshasa, les gens, ils sont un peu déroutés. Ils se disent, c'est quoi ça? C'est la danse? Vous appelez ça danse? Parce que, vraiment, le public, et ça, quelque part, j'adore, quand je joue au Congo, le public, s'ils n'aiment pas, ils se lèvent déjà, ils vous interpellent, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire? Et puis, ils s'en vont. Ou alors, ils vont être là, ils coupent jamais le téléphone déjà. Donc, le téléphone sonne, et quelqu'un qui se lève, il dit, allô, oui, je suis là, je regarde, il y a un spectacle, alors il y a des choses un peu bizarres, mais c'est intéressant quand même. Donc, on a un retour en direct. Et ça devient une partie du spectacle quelque part. Le fait que beaucoup de gens restaient, et des jeunes surtout qui restaient, qui voulaient nous parler, discuter avec nous, pour moi, ça m'a encouragé à continuer en me disant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est tellement rare dans ce pays-là, des espaces où on peut sentir qu'il y a la possibilité de se poser des questions et de rêver, justement. Il y a un metteur en scène égyptien que je respecte beaucoup, il s'appelle Hassan El Gretli, qui m'a dit, tu sais, la création, c'est toujours un animal étrange, partout. Mais comment créer un sens d'identification avec les gens autour de vous? C'est ça l'essentiel. Je ne suis pas un prof qui arrive avec des réponses. Ce que j'essaie de leur transmettre, c'est toutes mes questions. Et comment je me démerde avec ça. Voilà, leur transmettre qu'au final, personne ne viendra leur donner des réponses. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais que c'est en nous, c'est à nous d'inventer les réponses. Ça, c'est rien, c'est pas le plus important pour moi. Je dois apprendre à quelqu'un techniquement comment ça fonctionne. Mais c'est pourquoi je fais ça. Il y a Pina Bausch qui disait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment les gens bougent, mais ce qui les fait bouger. Bien sûr que je leur apprends comment bouger aussi, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'ils aient des outils pour pouvoir aborder la scène. Il y a une technique, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je me pose ces questions-là. Bon, c'est ça que j'essaie de leur transmettre.
Yo, Faustin, tu sais bien, ma misère, c'est comme un saut d'eau désert. J'ai déserté ma troupe pour trouver un groupe de civils dans une ville où je connaissais personne. Je perce avec mes souffrances au village où j'étais. Villageois, villageoise, non joyeux, non civilisé. Ils savaient pas improviser. Ils vivaient comme des vivres frais, frayés, coffrés dans une chambre chaude. Mais quand je suis venu à Kabako, tu m'as accueilli à bras ouverts, frère. Je te respecte et je te le rendrai plus. Même pas toi, mais à tes descendants, frérot. Je te respecte parce que t'es Faustin Ligné. Coula, tu sais d'où tu viens et d'où tu pars, et baisse pas les bras, frérot. On est africain, oublie pas tes origines, frérot. C'était Dinosaur de Kinshasa pour Faustin Aligné Coula, dédicace, frérot, ainsi qu'à tous mes frères du studio Kabako. Je vous aime bien, respect. Ben, Dinosaur, c'est un grand lézard qu'on peut pas écraser. J'ai pris ça comme un nom fétiche pour moi, quoi, voilà. Un nom qui me donne, tu vois, la force et tout. Même si une personne ne connaît pas et tout, il va dire, ouais, dinosaure, sûrement il doit être grand. Je suis juste petit. Donc voilà, quoi. Mais à part ça, moi, pour moi, Faustin, c'est un père pour moi, c'est un maître pour moi. C'est pas un prof pour moi, quoi, voilà. Faustin, je l'ai connu quand j'avais 16 ans. Non, à la halle de la Gombe, centre culturel français, ouais, à Kinshasa. Donc, je venais aux répétitions de jeunes du pop-art et tout. J'étais le plus jeune, bien sûr, mais il y avait mes aînés qui dansaient. À chaque fois que j'arrivais, il y a Jojo qui me cherchait tout le temps et tout. Il me faisait, ouais, petit, t'es encore trop jeune, tu dois aller à l'école et tout, patati patata. Mais après, il m'a présenté Faustin. C'est le jour que Faustin m'a posé la question, pourquoi t'appelles ton dinosaure? Je l'ai juste répondu vaguement comme ça, parce que je suis le dernier de ma race. Après 2 ans, je crois, il m'a fait, ouais, petit, j'aimerais bien travailler avec toi, j'ai créé un spectacle qui porte ton nom et tout. Et j'étais heureux, mais je disais, c'était mon rêve de travailler un jour avec Faustin. Parce que Faustin, moi, pour moi, il m'a beaucoup nourri l'esprit. Et puis, ça te donne d'autres directions. Parce que moi, vraiment, avant, j'étais plus tête cramée. J'étais plus tête cramée, un vrai voyou, je le dis. J'étais pas vraiment comme tout le monde, quoi. Je disais, j'étais dans mon monde et tout, je reste voyou. Mais depuis que j'ai commencé à travailler avec Faustin, j'essaie un peu d'être conscient de ce que je fais. Moi, c'est juste ça. Quand j'arrive sur scène, mon corps, c'est comme la géométrique, ça peut prendre toutes les formes que je veux, quoi, voilà. C'est un peu ça, ma philosophie, quoi, voilà, c'est que j'ai appris de mon maître. Moi, je l'appelle maître Faustin.
Pourquoi?
Parce que je dirais pas un prof, parce que les profs, ils sont trop limités, mais un maître, il t'enseigne pas. Mais juste, tu l'observes et puis tu reprends beaucoup, quoi. Ça te nourrit et tout, tu deviens grand petit à petit si tu respectes ce que ton maître fait, quoi, voilà. Ça te rend sage, ça sauve la vie pour moi. Les studios Kabako, c'est pour moi, c'est que ça représente pour moi, je dis d'abord, c'est une famille pour moi. Moi, j'étais éduqué dans la rue, pour moi, je connais pas mes parents. Voilà, aujourd'hui, je dis, j'ai même de la chance de raconter des gens comme Faustin, Jojo, Virginie, Papi Mbouiti,
c'est une famille.
C'est une famille, quoi. C'est une vraie famille, une famille qui essaie juste de te faire sortir de l'emmerde, quoi, voilà. Moi, ils m'ont donné le courage de savoir ce que je veux, quoi, voilà. Pour, tu vois comment tracer une autre ligne droite, hein. Escalader juste la montagne pour arriver au sommet, quoi, voilà. Et la danse, j'ai mélangé la danse de Faustin et ma danse. Voilà, aujourd'hui, je dis, je suis un danseur sans limite.
Ça m'effraie pas. Donner un coup de pied dans la fourmilière, ça m'effraie pas. S'aimer la pagaille au cœur d'une fête, c'est ma spécialité. Enlever ses smoking, ses cravates, ses boutons manchettes, ses nœuds papillons. Enlever, enlever, enlevez-nous ses perruques, ses faux ongles, ses fossiles, ses talons aiguilles. Garez loin d'ici vos limousines rutilantes et vos grosses cylindrées polluantes. Remballez, 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 remballez vos champagnes, vos caviars. Et puis coupez le son de cette musique pour amnésique. Tombolo, coupez les calés, rumba, zoblazo. Tombolo, coupez les calés, rumba, zoblazo. On veut bien, mais pas au prix de la mémoire. Alors coupez le son.
Si je parle des ruines, c'est peut-être juste dans l'espoir d'y trouver un espace qui me permette de rêver, c'est-à-dire de continuer. Si je parle de la nuit, de l'obscurité, c'est juste parce que j'espère trouver un peu de lumière. Et à un moment, bon, parfois moi, j'estime que j'ai pas trop d'imagination, alors je regarde autour de moi, je ramasse ce que me donne la vie. Et en regardant autour de moi au Congo, à Kinshasa, à Kisangani, et en cherchant s'il y a encore des espaces de rêve pour les Congolais, jeunes ou vieux, d'ailleurs, ou jeunes ou moins jeunes, je suis rendu compte que le milieu de la musique, avec les danses, les costumes, mais le milieu de la musique, c'est probablement le dernier espace de rêve. Ce ne sont même pas ces églises de réveil spirituel qui prêchent le miracle qui sont le dernier espace de rêve, mais c'est ce milieu de la musique-là. Alors je me suis dit, voilà, si je veux parler d'une possibilité d'avenir, peut-être que je peux me tourner vers cette énergie, l'énergie de la musique populaire congolaise, le ndombolo. Sauf que, socialement, le rôle que ça joue, cette musique aussi, c'est un peu l'opium du peuple. Ça nous permet de nous endormir et d'oublier. Et je me suis dit, mais est-ce possible d'aborder le ndombolo avec l'énergie
de la révolution.
Voilà. Comme des jeunes en Angleterre en 77, ils ont commencé le mouvement punk, les Sex Pistols notamment, et c'était une révolution. Et tout de suite après, je me suis dit, si c'est possible de jouer du ndombolo avec cette énergie-là et cette attitude, cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut encore casser ici? Parce que tout a été cassé. Et donc, du coup, c'est avéré que la seule manière d'être subversif au Congo aujourd'hui, c'est de proposer un espace à construire. Alors on s'est dit, bon, ce spectacle va s'appeler « More Future ». Parce qu'on ne peut pas dire « No Future » quand on n'en a jamais eu vraiment, réellement de promesses. Donc c'est « More Future ». Ou comment s'emparer de cette énergie et de voir comment cette énergie traverse les corps, comment cette énergie met en mouvement les corps, écrase les corps, ou comment les corps essaient de survivre dans ce raz-de-marée, parce que soniquement déjà, c'est un raz-de-marée, cette musique-là, et comment le corps peut survivre là-dedans. Et si je survis là-dedans, est-ce à dire qu'il y a peut-être une possibilité d'avenir? Parce que si ça ne me tue pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mon futur, c'est ça. Moi, quand je m'empare de ça, c'est pour essayer plutôt de rester debout et de dire que voilà, ça va très mal. Nous allons mal. Il y a beaucoup de raisons d'être désespéré. Ou plutôt, c'est un défi face à son propre, contre son propre désespoir. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça m'écrase.
Moi, ce souvenir me fait frémir encore. Hein. On voulait m'arracher de tout ce que j'adore.
Mai 2010, répétition du spectacle pour en finir avec Bérénice, Centre dramatique national chorégraphique d'Angers.
On va changer, Pasco. Tu joueras toute seule. Rien que pour les membres.
Rien que pour les membres. Bérénice, pour appuyer avec Bérénice à Mongonaise. Je n'ai pas eu de Mongonaise.
Quand j'ai rencontré vraiment ce texte, c'était à l'invitation de Muriel Mahette à la Comédie Française. Donc j'ai travaillé avec des acteurs de la troupe de la Comédie Française sur cette pièce. Et donc travailler au français, il fallait que je trouve le moyen de faire revenir ça au Congo, sinon l'expérience ne serait pas complète. Et donc, finir la création, finir ce voyage au Congo avec des Congolais, c'était une manière d'en finir. Parce que sinon, je serais resté sur ma faim. Mais c'est aussi parce que la langue de Racine, dans sa sophistication, me permet juste de me poser un peu la question sur l'héritage. L'héritage est dans mon héritage, j'ai aussi l'héritage colonial. Quand je dis que j'ai eu 6 ans de latin avec le père Pierre Lommel au collège du Sacré-Cœur à Kisangani, bon, voilà, ça c'est mon héritage. Comme Rimbaud, que j'ai découvert à 16 ans. Et donc, le fait que toute la vie publique au Congo s'organise en français, me disait, voilà, ça, voilà un terrain d'exploration qui est très intéressant. De jeter Bérénice au Congo, c'est mon racine. Et comment on se battrait avec ça, en sachant que le français, qui régit toute la vie publique, n'est maîtrisé au grand maximum que par 20% de la population congolaise. Alors, la distance que crée la langue de racine nous permet peut-être juste de nous regarder un peu plus, en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette langue? Qui nous définit finalement? Même si nous ne sommes pas totalement dans cette langue. Encore une fois, une manière de juste essayer de voir comment le français a traversé nos corps et continue à les cadrer finalement. Comment dire? À la fin du spectacle, on entend l'intellectuel britannique d'origine jamaïcaine Stuart Hall, qui est considéré un peu comme le père des études postcoloniales, qui dit un moment que quand il est arrivé en 1951 en Grande-Bretagne, on lui a demandé qu'est-ce qu'il venait foutre là, et il a dit « je viens finir le voyage colonial ». Vous l'avez commencé au 15e siècle, au 20e siècle, je viens boucler la boucle. Vous avez façonné ma vie et je viens un peu vous regarder dans les yeux. Donc, encore une fois, il s'agit d'essayer de comprendre où on en est, comment on en est arrivé là. Et juste pour avoir les moyens d'avancer, on peut jamais finir l'histoire.
Bérénice, t'attends, où viens-tu, téméraire?
La constitution congolaise est écrite en français. La loi en français.
Les adieux sont-ils prêts? Es-tu bien consulté?
Alors qu'il y a 80% de la population qui ne maîtrise pas cette langue.
Encore te promet-il assez de cruauté?
D'office, ces gens-là sont exclus, donc étrangers. Comment peut-on être étranger dans son propre pays?
Titus, ouvre les yeux!
Donc ces 80%-là, le Congo n'est pas leur pays.
La danse ne peut pas sauver le Congo. Mais la danse peut me sauver, moi. Il ne s'agit que de ça. Et peut-être que par contagion, je peux, comme un virus, ça peut se propager à 2, 3, 4 autres personnes autour. C'est tout. C'est tout. C'est, ça va être trop demandé à la danse que, de réconcilier le Congo. Ou alors, en ce moment-là, on se lancerait dans le même projet utopico-démagogique que ceux qui ont créé les ballets nationaux. Sékou Touré, Mobutu, Senghor, voilà. Qui imaginaient qu'en mettant ensemble toutes les danses de toutes les ethnies du pays, on inventerait une identité nationale. Non. On sait à quoi ça a conduit. On sait que les identités nationales, ça ne se décrète pas comme ça. Et je ne peux pas décréter que ma danse, ça va réconcilier le Congo. Non, ça ne peut que sauver moi. C'est tout.
C'était Sur les docks, danser sur un tas de ruines, portrait de Faustin Lignécoula.
Hélas.
Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Laure-Hélène Planchet, Christine Gedge.
Hélas.
Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Sophia Awin. Remerciements, Faustin, Papi Maurice Mbouiti, Dinosaur, Christophe Vavlet et tous les membres et compagnons des studios Kabako. Une mention spéciale pour Virginie Dupré et sa précieuse collaboration.
Hélas.
Une dernière pensée aux ancêtres, qu'ils soient remerciés.
Vous écoutez France Culture et pouvez retrouver nos podcasts sur le site de l'heure du documentaire. Demain à 17h, Danse toujours pour les 3 temps du danseur de Mehdi Aoudig.